midi, c'est le 22 du mois d'octobre. Il fait 6 degrés chez nous ce matin. C'est quand même bien plaisant. Déjà 7 heures, Louis-André Jalbert. Bon matin.
Bon matin, Gaétan.
On approche du week-end. Est-ce que tu suis un peu, te sachant bien sportif, la série mondiale de baseball ou ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui attire ton attention?
Ben, nécessairement, quand c'est la série mondiale, plusieurs personnes... Ben, pas mal tous les sports, là, tous les gens qui aiment moindrement un sport, quand on tombe dans les séries, tu sais, je regarde pas la NBA.
Ça attire l'attention.
Mais c'est ça, je regarde pas le basketball, moi, mais quand on tombe en série, je veux dire, ça commence
à
être intéressant.
Ça a de l'attrait,
ça joue plus défensif, vraiment, tu vois les stratégies. Au niveau du baseball, j'ai pas pris le temps encore parce que, tu sais, on travaille tôt, moi, puis toi, le temps. Donc, on n'a pas vraiment le temps de regarder une game de baseball au complet.
Quelquefois, c'est plus tard en soirée aussi.
Oui, effectivement. Mais en fin de semaine, je sais qu'il y a une partie. Donc, on va prendre le temps, je vais prendre le temps de moindrement jeter un coup d'œil, puis si moindrement c'est intéressant, je vais regarder la partie, sauf que c'est sûr que sans les fans, c'est plus difficile.
Ah oui. Manque vraiment quelque chose.
Ben, le baseball, c'est ça qui est le fun en série, c'est vraiment la foule est déjantée. Pour un sport qui est aussi endormant, c'est n'importe quoi,
c'est
comment que les gens sont fous, là. Je comprends dans la NFL, je comprends dans au hockey, à la NBA aussi, mais hey, le baseball, c'est long, là.
En saison régulière,
on filme tout le monde qui dort, là, dans le stade.
C'est
puis
vrai.
En série, c'est le party, là. Donc,
j'étais déjà allé voir un match des Expos, moi, à l'époque. Il fut un temps au Stade olympique à Montréal.
Tu dis ça.
Écoute, c'était épouvantable. J'avais tout le temps hâte entre les manches parce qu'il y avait de l'entertainment dans le stade. Là.
Exactement. Puis tu me dis ça, puis moi, j'ai une petite anecdote rapide là-dessus. Mon papy, lui, qui était à Montréal, un jour, il m'avait proposé d'aller voir un film au cinéma que j'avais déjà vu deux fois, mais j'étais enfant, ou d'aller voir les Expos. Et moi, les Expos, je savais pas vraiment quelle importance ça avait. Fait que finalement, j'ai été revoir pour la troisième fois le film, puis j'ai manqué ma chance d'aller voir les Expos
avant qu'ils disparaissent.
À leur dernière saison d'existence. J'ai eu la chance d'aller voir les Blue Jays quand même.
OK.
Donc, c'est pas si pire que ça, mais j'ai manqué les Expos, oui.
OK, Louis-André, rencontre hier téléphonique, c'est ce que tu as eu avec le nouveau ministre délégué aux Affaires autochtones, Yann Lafrenière.
Oui, exactement. Eh bien, moins d'une semaine s'est écoulée déjà depuis la fin de la saison de la chasse et un nuage surplombe, l'ouverture de la pêche au printemps prochain. Les barrages aux abords de la réserve faunique La Vérendrye ayant laissé des traces, aucune personne ne désire revivre cette situation pour une deuxième fois dans la même année. En poste depuis maintenant bientôt deux semaines, le nouveau ministre délégué aux Affaires autochtones s'est entretenu avec le service des nouvelles de CAGA afin de faire le point sur la situation. Pour Yann Lafrenière, il est primordial d'en arriver à une entente entre le gouvernement et les communautés anishinabés. Toutefois, il considère que le conflit comporte une profondeur qui va au-delà de la chasse à l'orignal. Écoutons le ministre délégué aux Affaires autochtones sur ce sujet.
Parce que de part et d'autre, Annie Lisekel, moi je regardais ce qui se disait sur les médias sociaux, il y avait une montée d'intolérance, une montée de racisme. Moi, j'étais inquiet comme ancien policier de voir comment ça se passait sur le terrain. Je me disais qu'il y avait un danger que ça dégénère. Alors, pour toutes ces raisons-là, moi je veux vraiment régler cette problématique-là en profondeur. Et oui, ça va prendre du temps, mais de la négociation beaucoup plus profonde que l'enjeu. Oui, on regarde l'enjeu de l'espèce plus profondément. Moi, je pense vraiment à du développement économique, du développement touristique, du développement culturel, mais on doit le faire ensemble. Et c'est là-dessus que j'ouvrais le jeu, que ça soit beaucoup plus inclusif, mais beaucoup plus large comme négociation.
Pour ce qui est de l'inaction de la sécurité publique, le ministre délégué aux Affaires autochtones déplore les dommages collatéraux qu'ont subi les personnes qui se trouvaient à l'intérieur des barrages des communautés, mais croit qu'une intervention policière n'aurait fait que creuser un plus grand fossé entre Québécois et membres des Premières Nations.
Je ne parlerai pas au nom de la sécurité publique, mais comme vous me lancez comme ancien policier, j'ai de la misère à ne pas vous répondre en vous disant qu'effectivement, une situation comme ça, il y a beaucoup de perdants. Et sans vous dire, sans justifier chacune des actions ou des inactions sur le terrain, je pense que tous les gens qui vous écoutent aujourd'hui comprennent très bien que l'approche de force n'aurait absolument rien réglé. Aujourd'hui, on parlerait d'autre chose. Je pense qu'on serait enlisé dans un conflit beaucoup plus profond. Alors, sans embarquer dans les tactiques, moi, je vous dirais que ce qui m'appartient dans mon rôle de facilitateur, c'est de négocier pour pas qu'on arrive à ça. Parce que quand on arrive à des gestes comme ça, parce que en amont, ben on l'a échappé. Là. On n'a pas été capable de négocier et de se parler.
Le ministre compte bien bénéficier de son expérience afin d'arriver à une entente qui sera bénéfique sur le long terme pour la région. Selon lui, les Québécois et les communautés autochtones sont séparés depuis bien trop longtemps sur le plan culturel et économique et qu'il est temps de rejoindre les deux bouts afin de créer un avenir pour un développement commun.
Je pense qu'à la base de ça, il y a quelque chose qui a été mis de côté pendant longtemps. Présentement, on vit côte à côte, mais on doit vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est-à-dire de partager, de faire en sorte qu'on fasse du développement ensemble. Et moi, je pense que c'est ma ma ligne, la façon je tiens de négocier. Parce que sinon, ben écoutez, chacune des espèces va y passer. Là, dans ce sens, des négociations sur chacune des espèces. Et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution pour tout le monde. Certains peuvent voir l'arbre. Moi, je dois voir la forêt au complet. Je dois voir de façon large comment on peut se rapprocher, comment on peut être ensemble.
Le ministre délégué aux Affaires autochtones affirme que les négociations sont en cours et qu'un négociateur a été engagé dans celles-ci. Sans que le secrétariat aux Affaires autochtones soit responsable de compenser les pourvoiries, le ministre affirme que le gouvernement analyse la situation et trouvera une façon d'aider les entreprises qui ont subi des pertes économiques dans le conflit.
On se dirige à Montserre-Flétain. Le projet Smart Village connaît du retard.
Mais oui, et ça l'étonne plus ou moins les gens. Là, on en parlait justement au service des nouvelles et on va le croire quand on va le voir, ce projet-là. La construction de l'immeuble locatif de 10 unités de logement ainsi que la Smart Clinic, tous deux faisant partie du projet Smart Village à Montserre-Flétain, devait débuter en octobre, mais doit être reporté au printemps 2021. La réglementation du zonage en vigueur actuellement permet seulement la construction d'immeubles de 5 logements. Pour que le projet puisse se poursuivre, la réglementation doit être changée, ce qui crée des délais, comme l'explique Ward O'Connor, président de la Fondation Saint-Philomène de Montserre-Flétain.
La municipalité doit apporter des changements au zonage, mais là, il y a des délais qu'il faut respecter. Il y a des avis publics qu'il faut que ça soit déposé. Après ça, il y a des consultations publiques. Après ça, des tenues de registre, le CHL a accepté de reporter la construction au printemps. On est un petit peu déçus parce qu'on avait des gens qui s'attendaient à rentrer pour décembre. On aurait toujours pu construire l'hiver. C'est compliqué l'hiver, beaucoup plus dispendieux.
Pour la réalisation du projet, une connexion Internet à fibre optique était nécessaire. Depuis le mois de septembre, une dizaine de résidents de Montserre-Flétain bénéficient de ce service et d'ici la fin du mois, d'autres résidents auront accès au service également. Comme les résultats sont concluants, là, un plus grand nombre de gens pourraient être desservis par ce service Internet. On écoute à nouveau Ward O'Connor.
C'est pour ça qu'on a fait venir la fibre optique, mais c'est la fibre commerciale, puis on en a trop, plus que ce qu'on a besoin. N'importe qui, la municipalité qui est intéressée peut l'avoir. Présentement, c'est temporairement, on l'a installé une tour sur le clocher de l'église, mais là, on attend la livraison d'une tour qui va être installée sur le Mont-Cerf, qui va pouvoir desservir beaucoup plus grand.
L'implantation de la connexion Internet à fibre optique a aussi connu du retard en raison du plainte déposée au CRTC. Le projet s'est poursuivi avec la compagnie NetSolid. M. O'Connor mentionne que la plainte serait non fondée.
Et on termine en parlant de ces employés de l'usine de Louisiana Pacific, oui, qui sont positifs à la COVID-19.
Oui, exactement. 2 cas de coronavirus ont été confirmés il y a quelques jours au sein de l'usine, de l'équipe de l'usine plutôt, de Louisiana Pacific. Le directeur de l'usine LP Division Maniwaki, Christian Taillon, confirme que les deux employés sont de la même famille et qu'ils ont été placés en quarantaine.
Les deux employés nous ont contactés pour dire qu'il y avait un cas positif dans leur famille qui resterait à la maison. Ils ont subi des tests. Au moment qu'on a eu le résultat que les employés étaient positifs, les gens qui auraient pu avoir à travailler là, pendant une certaine période avec eux, on les contacte, on leur donne les informations.
Ce dernier confirme que les démarches ont été faites en collaboration avec la santé publique et que les postes de travail ont été désinfectés. 4 employés ayant possiblement été en contact avec les personnes infectées ont été placés en isolement préventif et ont subi un test de dépistage. 2 d'entre eux sont maintenant de retour au travail puisqu'ils ont reçu un résultat négatif et les 2 autres demeurent à la maison en attente du résultat. Actuellement, les données de l'Institut national de santé publique du Québec font état d'un total de 18 cas de COVID-19 dans la vallée de la Gatineau. Lundi, le bilan faisait état de 15 cas et avant que tu le dis, Gaétan, c'est 18 cas depuis le début de la pandémie.
Oui, ouais, c'est toujours important à rappeler.
Oui, effectivement.
Si on s'arrête qu'au gros titre, ça peut faire peur aux gens.
N'empêche qu'on a doublé depuis le début du mois d'octobre.
Ah, totalement. Puis ce matin, c'est 5 cas actifs. En tout cas, selon les chiffres de l'Institut national de la santé publique, en date d'hier, évidemment.
Effectivement.